Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis de ma prédication virulente de dimanche passé. Il y a des choses qui doivent être dites, c'est vrai, je parlais un peu fort, je vous en demande pardon, je n'avais pas besoin de crier comme ça pour dire des choses, mais bon, des fois, voilà, c'est comme ça. Écoutez, on me demande souvent... Et c'est de ça que je vais parler ce soir. On me demande souvent, et dernièrement encore, par quelle autorité je fais ce que je fais. Alors, des religieux, vous savez ce que ça veut dire dans ma bouche, hein, des religieux ont aussi demandé cela à Jésus. On va lire ça dans Marc chapitre 11, verset 27. Prions pendant que vous cherchez le texte dans la Bible. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message ce soir. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs qui sont encore dans l'hésitation au sujet de ce qu'ils ont à faire en ton nom. Merci Jésus. Amen. Alors ils, c'est-à-dire les religieux, se rendirent de nouveau à Jérusalem. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, donc voilà, c'est toute l'équipe de Jésus, ils se rendent à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean-Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Et ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, craignez le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons, on ne sait pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'est l'humour de Jésus. Ah, Jésus n'avait pas à se justifier devant ces gens, devant ces religieux prétentieux. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient lui dire, ces religieux ? Ils voulaient lui dire, ça n'est pas nous qui t'avons donné cette autorité, donc elle ne vient pas de Dieu. Tu aurais dû passer par notre sainte école, tu aurais dû suivre le cursus normal, n'est-ce pas ? Et puis que nous te reconnaissions, que nous t'imposions les mains pour te consacrer... Mais tu ne l'as pas fait, alors quelle est l'autorité qui est au-dessus de toi ? C'est typiquement l'esprit religieux. Et si tu n'as pas été baptisé par un des serviteurs de Dieu de notre Église, ton baptême ne vaut rien aux yeux de Dieu, et si tu fais des miracles, même au nom de Jésus, tu n'as pas été consacré selon les rites de notre Église, donc tes miracles viennent du diable. On me l'a dit, hein. Ou alors, pour les moins radicaux, les plus polis, les mieux éduqués, ils vont dire, tu fais ça par la foi, mais c'est pas selon l'ordre établi de notre Église. Voilà. Bref. Alors, dois-je justifier ce que je fais ? Dois-je répondre à cette question ? Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Eh bien, non. Jésus ne s'est pas justifié devant ses religieux, et je ne le ferai pas non plus. C'est Jésus qui nous justifie. Qu'est-ce qu'il dit ? Soyez des disciples. Comment ? Il a donné les clés à Pierre, et Pierre s'en est servi le jour de la Pentecôte. On trouve ça dans Actes 2, 38 à 44. Comment on peut être disciple ? Eh bien, premièrement, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, recevez le Saint-Esprit, et entrez dans son Église. Ah. On va le lire, acte 2, chapitre 38. Ça vaut la peine de voir ça, parce que l'ordre établi par Jésus, c'est ça en fait. Hein. Acte 2, 38. Voilà ce qui s'est passé. L'apôtre Pierre parle, et après avoir entendu ce discours, les gens ont eu le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et alors Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous voyez, c'est Dieu qui appelle, aussi loin que cela est possible, dans l'espace et dans le temps. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain, le temple juif, hein, le temple des juifs, le temple à Jérusalem. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, se repentir, bon ben, vous savez ce que ça signifie, vous qui venez écouter mes prédications sur Révélation Bible, vous savez très bien ce que c'est se repentir. C'est pas regretter d'avoir fait une bêtise, mais c'est reconnaître qu'on a offensé Dieu et vraiment s'humilier devant lui et se détourner du péché qu'on fait ou qu'on a fait, essayer de réparer si possible, enfin se repentir. Ensuite, être baptisé au nom de Jésus à cause du pardon des péchés, acte 2, 3. Moi, pour moi, c'est fait, hein, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Recevoir le Saint-Esprit, voilà, c'est fait. On a prié pour moi, c'était une chrétienne, c'était Violette, la sœur. Violette, l'épouse de Raphaël, qui avait reçu de Dieu et qui a prié pour moi, et j'étais rempli du Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue. Ensuite, entrer dans son église telle qu'il l'a voulu au commencement, pour moi c'est fait. Être soumis aux anciens, ben, pour moi c'est fait. Maintenant, les premiers disciples, c'est-à-dire les disciples dans l'ordre établi par Jésus selon Luc 14, 33, c'est-à-dire nul ne peut être disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, eh bien, les premiers disciples n'avaient pas de locaux appelés église ou temple ou que non, rien. Ils se réunissaient dans les maisons, ils prenaient leur repas ensemble, et puis ils allaient au temple de la religion juive. C'était pas leur temple, ils n'avaient pas de temple à eux. Hein, ils allaient au temple. Et puis, ils baptisaient les gens ben là où ils pouvaient, dans les maisons, dans les cours d'eau, comme l'eunuque, par exemple, qui a été rencontré là par Philippe, il y avait un peu d'eau, il l'a baptisé là. Et qui avait le droit de faire ces choses en son nom, c'est-à-dire de sa part? Parce que faire les choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est les faire de sa part. Eh bien, tous ceux qui croyaient en lui. Tous ceux qui croyaient en lui, vous trouvez ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire, tous ceux qui croient peuvent chasser les démons, parler de nouvelles langues, etc., etc., imposer les mains malades pour que les malades soient guéris, voilà. C'est qui? C'est tout le monde, tous ceux qui croient. Mais qui croient quoi? Eh bien, qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur. À tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Je crois, donc je le fais. Est-ce que j'ai attendu l'imposition des mains du frère Osborne pour le faire? Non. J'ai fait ce que les premiers chrétiens croyaient pouvoir faire parce que Jésus leur en avait donné le droit. Est-ce que je me suis autoproclamé pasteur? Non, jamais de la vie. Est-ce que je me suis autoproclamé évangéliste ou prophète ou quoi que ce soit? Jamais de la vie. Comment ça s'est passé? Eh bien, Dieu m'a appelé au travers de l'apôtre Clément le Cossec dans une réunion qui avait lieu à Metz, sous un grand chapiteau, devant 2000 personnes. Et il y avait dans l'église où j'allais un Américain qui s'appelait Bill Williams, avec son épouse Joanne, ils vivent toujours. Et ils peuvent témoigner que ce que je dis est vrai, ils étaient à Lausanne, dans mon église, et ils ont reconnu mon ministère. C'est-à-dire, ils ont vu ce que je faisais, et ils ont... Alors, il m'a engagé dans l'œuvre d'évangélisation de Teen Challenge. Ce ne sont ni le Cossec, ni Bill Williams, ni Osborne qui m'ont choisi. C'est Jésus-Christ qui m'a choisi et qui m'a établi. Et j'ai porté du fruit. Alors, les serviteurs de Dieu m'ont consacré, ont officialisé les choses devant l'Église. Hébreux, chapitre 5, verset 4, on va lire cela. Hébreux 5, verset 4, voilà ce qui est dit. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Pardon, c'est pas ça. 5, 4, voilà, c'est là. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il le dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Voilà comment Jésus, voilà par quelle autorité il agissait. Voilà par quelle autorité il agissait. Alors, est-ce que j'ai usurpé cette dignité de serviteur de Dieu, de pasteur ou de ce que vous voudrez? Non. Mais j'ai simplement reçu du Seigneur un appel que personne ne peut contester. Et les serviteurs de Dieu, tels que Raphaël Duval, tels que Osborne, Bill Williams, Vic Ramsey et bien d'autres, donc ça c'est les quatre principaux, ce que ces hommes-là ont vu, ben, ils ont vu que j'agissais au nom du Seigneur Jésus-Christ, que des gens étaient sauvés, que Jésus agissait au travers de moi en faisant des guérisons, des miracles, et cela dès le troisième jour, après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Tout le monde l'a vu, c'était public. N'importe quel chrétien peut agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés un peuple de prêtres, selon la Bible. Dans Apocalypse 1, 6, vous avez cela très clairement écrit. Apocalypse 1, 6. Il dit avant, un peu avant, « Celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang ». Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voilà. C'est lui, Jésus, qui a fait de nous, de vous, de moi, de tous ceux qui croient, un royaume. Son Église est un royaume sur terre. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu, des gens qui agissent en son nom et qui ont un office, qui ont quelque chose à faire. Et Jésus est toujours le même, il n'a pas changé, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Les églises ont changé, les curés ont changé, les prêtres ont changé, les modes ont changé, les façons de faire ont changé. Mais Jésus est toujours le même. Si on le prend clairement sur ce qu'il dit, c'est tout simple. Moi, je me rappelle, j'étais à cette réunion, ça faisait 3 jours que je fréquentais les réunions évangéliques là, de Raphaël, et puis il y avait un paralytique devant nous, et je priais pour lui, puis il était guéri. Hein. Je n'ai pas demandé si je l'ai fait, au nom de Jésus, je croyais, donc j'ai dit, ben, je peux le faire, et je l'ai fait, puis il a marché, il était guéri. Alors oui, il doit y avoir de l'ordre dans l'église. Et ça, c'était un peu spécial, le fait que je prie pour cet homme et puis qu'il soit guéri alors que j'étais même pas encore baptisé, ni d'eau ni du Saint-Esprit. C'était pas tellement dans l'ordre établi des choses, mais Dieu a répondu. Pourquoi ? Parce que j'ai cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que je savais, je le croyais. Et comme je le croyais, Dieu a honoré ma foi, parce que j'ai agi selon ma foi. Alors, pour quelle raison doit-on avoir de l'ordre dans les églises ? Pour quelle raison doit-il y avoir de l'ordre dans son église ? Eh bien, pour éviter ce qu'on voit de nos jours, par exemple. Enfin, ça a toujours existé, mais de nos jours, c'est pire qu'avant. Une bande de déséquilibrés, qui ont la prêchite aiguë, comme je dis, des gens qui veulent absolument avoir un micro en main à prêcher, ou alors être devant une caméra YouTube compagnie, ils ont la prêchite aiguë, et ils ont pas reçu quelque chose de Dieu, non, ils tordent le sens des Écritures, ils manipulent les gens simples, bon ben ça se voit très rapidement, s'ils ont reçu quelque chose de Dieu ou pas. Il y a des gens comme cela. Et il y en a eu déjà dès le début de l'Église, des Ananias, des Saphira, des Simon, des Alexandre le forgeron. Hein, dans 2 Timothée 4,14, il est dit que Paul dit que de cette sorte de personnes que le Seigneur leur rendra selon leurs œuvres. C'est le Seigneur qui justifie ceux qu'il a appelés. On va lire Romains chapitre 8, verset 29, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 29. Je prends ma Bible. 8, 29. Bon, verset 28 déjà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, donc ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, pensez-y. Paul a-t-il mis ces mots dans n'importe quel ordre, ou est-ce qu'il y avait de l'ordre dans sa pensée? D'abord, il dit « ceux qu'il a connus d'avance ». Alors, nous savons que nous avons un passé éternel et Dieu nous a connus d'avance. C'est-à-dire, avant qu'on vienne sur cette terre, il a connu notre esprit et il nous a prédestinés. Vous voyez, d'abord, il nous a connus, ensuite, il nous a prédestinés. À quoi? À être semblable à l'image de son Fils. C'est-à-dire à être bon, gentil, pur, et puis aussi puissant en œuvre, miraculeuse et toutes ces choses-là, semblable à l'image de son Fils. Il veut qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à ça. Qui ? Ben, tous ceux qu'il a choisis, tous ceux qui sont ses enfants, tous ceux qui croient. Alors, connu. Et puis, il leur donne un destin, il les prédestine, il leur donne un destin, et puis ensuite, il les appelle. Ben oui, parce que Dieu nous donne un destin, mais il faut bien qu'il nous appelle, il faut bien qu'on comprenne, qu'on prenne conscience. Il nous appelle. Alors, bon, c'est vrai, il appelle d'abord, premièrement, des pécheurs. Oui, c'est vrai. Et il les justifie, ces pécheurs. Ces pécheurs qu'il a connus d'avance, qui sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Puis, ceux qu'il a justifiés, il les glorifie et il leur donne une part de sa gloire. Pour ce qui est du ministère, pour ce qui est de l'œuvre à accomplir, Dieu n'appelle pas des pécheurs, mais des gens qui se sont repentis. Ensuite, qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés. Et après les avoir appelés au ministère, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui l'appelle au ministère, de pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, après les avoir appelés au ministère, eh bien, il les justifie aux yeux de tous ceux qui les regardent en confirmant ce qu'ils disent, dans leur prédication, par et dans leur acte de foi, en faisant des miracles. Comment est-ce qu'il confirme ceux qu'il a appelés? Comment les justifie-t-il? Comment justifie-t-il qu'ils ont bien été appelés par lui? Ah ben, Marc chapitre 16, verset 20. Et vous ne pouvez pas mettre en doute l'évangile de Marc, verset 20. Les disciples, une fois que Jésus est parti pour s'asseoir à la droite du Père, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ça s'est passé comme ça au début et Jésus ne change pas. Jésus n'a pas changé jamais. Les églises ont déraillé, voilà, mais Jésus, lui, ne change pas. Et si on prend Jésus au mot, il est avec nous comme il était avec les premiers croyants. Dieu confirme les paroles de ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés à être comme Jésus. Il confirme ceux qu'il a appelés, il les justifie en confirmant ce qu'ils enseignent en faisant des miracles. Il confirme ses serviteurs devant qui? Eh bien devant tous, c'est publiquement, hein, c'est public. Et il se trouve toujours des gens pour douter dans le public, c'est normal. Surtout les religieux. Beaucoup de religieux m'écrivent en me disant, mais frère, par quelle autorité agissez-vous? À qui êtes-vous soumis? De quelle église êtes-vous? Ils ne se réjouissent pas que des aveugles retrouvent la vue, que des sourds entendent, que des paralytiques marchent. Non, ils ne se réjouissent pas de ça. Ils disent, mais ça vient d'où? C'est qui vous a ordonné? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Un vrai serviteur de Dieu, confirmé par Dieu, excusez-moi, mais il se moque de la vie de ceux qui doutent. On n'a pas de temps à perdre. Il se moque de ceux qui disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Je ne suis pas un électron libre. Je ne suis pas un franc-tireur. Mon ministère est dans une lignée parfaite. Voyez-vous, il y a une prophétie qui a été donnée par des frères de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, ce qu'on appelle communément les Mormons, une prophétie qui était donnée des années avant sa naissance, annonçant la venue de William Branham. William Branham rend témoignage. Il dit, voilà, des frères mormons m'ont donné un livre dans lequel il y avait une vieille page jaunie avec cette prophétie qui disait que, au temps où il y aurait, c'était écrit dans les années 1880 par l'auteur, au temps où il y aurait sur la Terre un mouvement appelé le nazisme, il y aurait un homme qui se lèverait du nom de William Branham et qu'il ne fallait pas l'empêcher de travailler parce que c'était Dieu qui l'avait institué là pour faire ça. Et puis William Branham est devenu l'ami de T.L. Osborne. C'est T.L. Osborne qui a prêché lors de l'enterrement de William Branham. T.L. Osborne n'était pas d'accord avec tout ce que William Branham disait. Et puis voilà, moi non plus. Mais n'empêche que il y a là une ligne dans le ministère de l'évangélisation et de la guérison des malades. T.L. Osborne, ensuite, est venu un jour en France et il a rencontré une foule de gitans, et il devait en avoir à peu près 2000-2500, il a pointé du doigt Raphaël et il a prophétisé sur sa vie, au sujet de son ministère. Et puis Raphaël me rencontre, je rencontre Raphaël, je me convertis avec lui. 3 jours après, je prie pour mon premier malade qui est guéri. Raphaël me fait venir devant, il me dit, ben, continue, prie avec moi, il y a tellement de malades, prie avec moi. Et je prie avec lui, et il y a eu des guérisons, et lui il avait des guérisons dans son côté, puis moi j'avais des guérisons dans le mien, et tout ça dans la même salle, devant tout le monde, à Lausanne, les gens l'ont su, c'est public, c'est quelque chose de... Personne ne peut contester ça. Et puis Osborne a entendu parler de mon ministère. Alors, nous nous sommes rencontrés, il nous a invités, mon épouse et moi, à aller à Tulsa, Oklahoma, et là, il m'a imposé les mains le 7 novembre 1979 pour me consacrer dans le ministère. Mais je n'ai pas attendu le 7 novembre 1979 et l'imposition des mains de Frère Osborne pour conduire des gens à Jésus et pour prier pour les malades et avoir des guérisons. Non, moi j'ai simplement cru ce qui était écrit dans la Bible. C'est parce que ces hommes de Dieu, eux-mêmes confirmés par Dieu, m'ont vu agir, m'ont vu porter du fruit pour la gloire de Jésus, qu'ils m'ont, entre guillemets, glorifié ainsi, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné ce titre, ils m'ont reçu comme un des leurs, et selon que Dieu glorifie ceux qu'il justifie, c'est ce qu'on vient de lire dans la Bible. Amen. Je dis pas, j'ai l'air insensé quand je dis ça, un petit peu comme l'apôtre Paul qui dit « Oui, moi bien plus que vous, j'ai été persécuté, j'ai eu ci, j'ai eu ça. » Personne ne peut rien dire contre ce que je suis en train de vous dire, parce que ce sont des choses qui sont connues. Ce sont des choses qui sont connues. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mes frères et sœurs, agissez au nom de Jésus-Christ. Et l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, les véritables enfants de Dieu, vous reconnaîtront. Pas toutes les Églises, pas toute l'Église, non, bien sûr que non. Juste ceux qui sont vraiment de l'Église de Jésus-Christ, parce qu'ils ont le même esprit que vous. Ils vous reconnaîtront. Ne cherchez l'approbation de personne, sinon celle de Dieu. Ceux qui sont de Dieu reconnaîtront qui vous êtes. Ils ne vous poseront pas la question « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Ceux qui sont de Dieu vous reconnaîtront qui vous êtes. Et vous aurez, vous aussi, des faux frères qui vous mettront des bâtons dans les roues, des Alexandre le Forgeron, etc., etc. Mais Dieu va se charger d'eux. Dieu va se charger d'eux. Ça, c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Regardez comment ils vont être traités par le Tout-Puissant. Priez pour eux, parce que c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu puissant. Ceux qui critiquent un véritable serviteur de Dieu, mais je les plains. Je les plains. Enfin bref, tout ça pour dire, faites la preuve que vous avez été appelés par Dieu. Simplement faites la preuve. Et vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas entendu de voix qui me disait que j'étais appelé par Dieu. Dieu m'a pas parlé, il n'y a pas un ange qui m'est apparu, Michel, tu vois. Bon, tu as une Bible, mon frère, tu as une Bible, ma sœur. Bon, qu'est-ce que tu lis dans Marc ? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À qui il dit ça ? Aux gilets jaunes ? À qui il dit ça ? Aux communistes ? À qui il dit ça ? À tous ceux qui croient en lui. Voilà. Allez prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, l'évangile, priez pour les malades, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ça confirmera que je suis avec vous, voilà. Voilà. Pas de cérémonie. Bon, on peut en faire des cérémonies dans des temples ou dans des salles évangéliques plus ou moins jolies. On peut en faire des cérémonies. Ces cérémonies sont utiles pour mettre de l'ordre, pour qu'il n'y ait pas trop de zinzin qui se lance à faire n'importe quoi. Mais ça empêche, en quelque sorte, ça empêche les rigolos de faire du mal aux gens. Vous ne pouvez pas les empêcher vraiment de le faire, parce qu'il y a toujours des gens qui suivront les rigolos, les gens un peu dingos, qui font du prêchi-prêcha, et qui veulent se faire remarquer, ou qui font ça pour la gloire, ou pour l'argent, ou je ne sais pas quoi. Il y en aura toujours, mais bon, il faut de l'ordre, un minimum d'ordre. Et c'est pourquoi Jésus, dans son Église, il y a de l'ordre. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des gens qui sont consacrés et qui peuvent vous consacrer publiquement. Et ainsi, vous êtes, en quelque sorte, justifié par Dieu au travers de ces hommes. Vous voyez ? C'est tout simplement cela. N'oubliez pas que vous êtes un peuple de sacrificateurs, dans d'autres versions, un peuple de prêtres. C'est-à-dire que vous avez la prêtrise. Alors, est-ce que vous avez quelle prêtrise vous avez? Ben, la prêtrise de Melchisédek. Mais Michel, qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible, elle n'est pas transmissible. Bien sûr, elle n'est pas transmissible, la prêtrise du Melchisédek. Mais si Jésus-Christ vit en vous, lui, il a cette prêtrise. Et c'est en son nom que vous agissez. C'est par la prêtrise du Melchisédek de Jésus qui vit en vous que vous agissez. Est-ce que Jésus vit en vous? C'est la seule question. Est-ce que oui ou non Jésus vit en vous, ou est-ce que vous avez une religion? C'est tout, c'est la question. Si Jésus vit en vous, vous avez cette fameuse prêtrise de Melchisédek, c'est-à-dire celle qui n'est pas transmissible, sinon que Jésus-Christ vit en vous et manifeste cette prêtrise. Alors que vous dites au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir les malades guéris, et vous allez voir les tempêtes se calmer, et vous allez voir... Comment cela peut-il être possible qu'un simple petit bonhomme comme moi puisse faire ces choses? C'est la question que se posent ceux qui doutent. Ceux qui ne doutent pas, ceux qui connaissent bien la Bible, savent que cela a toujours été, que Jésus n'a jamais changé. C'est vrai qu'il y a eu l'apostasie, c'est vrai que ces choses ont été perdues pendant longtemps, mais il y a toujours eu quelques petits restes de gens sérieux, sincères, qui aimaient Dieu et qui travaillaient au nom du Seigneur Jésus-Christ selon ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Au XVe siècle, Dieu ne donnait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à la plénitude des temps. Aujourd'hui, on arrive à la fin et Dieu est en train de répondre de son esprit d'une façon absolument extraordinaire sur des gens tellement simples. Regardez ce Raphaël, le gitan, qui savait ni lire ni écrire, et les choses extraordinaires qu'il faisait. Au nom de Jésus-Christ. Mais par lui-même, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Il est mort d'un cancer, voilà, il a pas pu chasser ce cancer. Parce que c'est pas par... Dieu fait ce qu'il veut. Mais nous agissons en son nom. Il nous a donné l'autorité, il a dit, allez et faites-le. Alors on va, puis on le fait. Et c'est tout. Puis on ne se pose pas de questions. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Quoique, Jésus a dit, allez et guérissez les malades. Vous voyez, il faut être spirituel. Il faut avoir il ne faut pas raisonner avec la tête seulement. Il faut être spirituel. Maintenant, vous avez un appel, vous qui êtes croyant, qui se trouve dans la Bible. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Où est-ce que vous devez aller? Alors après, il y a des tas de chrétiens qui prient pendant des heures pour savoir s'ils doivent aller au Congo, au Brazzaville, au Tibet, au Pôle Nord, pour prêcher l'Évangile. Ils prient jusqu'à ce que Dieu leur dise, il faut aller au Tibet pour prêcher. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Et Dieu a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez-y, prenez un billet d'avion, puis allez-y. Vous n'avez pas les moyens d'aller au Tibet, c'est pas grave. Vous avez une rue, vous avez un village, vous avez... Ben prêchez là. Commencez à faire les choses là. J'ai commencé dans mon village. À Chèbre, ça s'appelait. Puis à Puydou. Puis après, j'ai continué. J'étais plus loin. Puis après, je suis arrivé à Paris. Puis après, je suis parti en Inde. Après, j'ai fait le Pakistan, l'Afghanistan, la Turquie, Israël. Enfin, j'ai fait 70 pays en tout. Voilà, comme ça. C'est beau, la vie avec Jésus. Faut pas compliquer les choses. Mais il faut que vous compreniez que Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous devez faire les choses dans l'ordre. Vous ne pouvez pas vous amuser à enseigner des choses alors que vous ne les connaissez pas, ou que vous avez simplement lu sur YouTube des trucs et puis vous les répétez bêtement. Non. Il faut quand même étudier un minimum pour savoir ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Au début, je prêchais pas des choses que je prêchais simplement Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, il guérit les malades, il revient bientôt, puis ça s'arrêtait là. Raphaël, il prêchait que ça. Vous savez, Raphaël, il avait que 5 prédications. Il prêchait toujours les mêmes. Il restait une semaine dans un coin, avec sa caravane, son petit groupe, là, et puis il prêchait. Il distribuait des tracts dans la rue, il invitait des gens à venir à la réunion, les gens venaient, puis il faisait ses cinq soirs avec 5 prédications. Puis après, il partait, il allait dans un autre bled, et il recommençait les mêmes prédications. Puis un jour, son beau-frère, qui s'appelait Paionteum, qui lui était un érudit, c'était un gitan, mais c'était un érudit. Alors lui, il lui dit, Mais Raphaël, quand même, tu devrais tourner le disque un peu, mettre, lis ta Bible, apprends à lire, et puis prêche-nous autre chose, tu prêches toujours la même chose. Et Raphaël lui dit, dis donc, païen, toi, avec toute ta connaissance, t'as emmené combien de personnes à Jésus? Moi, j'en ai emmené des milliers, alors laisse-moi avec mes prédications, puis toi, continue avec ton école biblique, tes machins. Il était un peu cru, Raphaël. Païen avait son utilité dans le corps de Christ. Mais, de loin, Raphaël était un homme de Dieu qui faisait un travail, qui portait du fruit extraordinaire, un fruit extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai vu une femme à Morges, c'est une petite ville de Suisse au bord du Léman. Elle est venue à la Réunion et puis elle avait un corset de plâtre de la tête aux pieds. Elle avait une décalcification des os. Et il y avait, je vais avoir 400 personnes sous ce petit chapiteau. Et puis Raphaël a prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit de maladie, sort de là. Et puis il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une scie? Oh, il s'est mis à scier le plâtre. Mais quelle horreur! C'était une foi terrible. Hein. Et puis, cette femme était guérie. Elle est rentrée chez elle à pied. Elle était guérie. C'est qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. Et il confirmait que ce que Raphaël avait prêché, c'était la vérité. Raphaël prêchait Jésus sauve, Jésus guérit. Ben, il a pu prouver que ce qu'il disait, c'était vrai. Et puis, l'année d'après, quand Raphaël est revenu, il est revenu avec sa belle-mère qui s'appelait Camélia. Alors, ils arrivent à Morges, et puis évidemment, première chose, ils demandent des nouvelles de la sœur qui avait été guérie. Alors, on lui dit, oh là 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 là, c'est pire qu'avant, elle est encore plus malade qu'avant, et tout. Raphaël lui dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on ne sait pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est vraiment mal, c'est pire qu'avant, horrible. Alors, Camélia, elle avait reçu le don de discernement des esprits, Dieu lui parlait, donc elle va la trouver. Elle tape à la porte. C'est Camélia, je veux pas la voir. Si, laissez-moi entrer, je veux la voir. Et bon, finalement, elles se sont rencontrées. Alors Camélia lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben vous voyez, hein, votre Raphaël là, ben il a prié pour moi et puis ça a duré quelques mois et puis il s'est revenu pire qu'avant. Camélia dit, attendez, je prie un peu. Puis elle prie. Seigneur Jésus, montre-moi ce qui ne va pas. Éclaire ma pensée pour que je voie ce qui ne va pas. Une femme, Camélia était illettrée aussi, mais elle savait écouter Dieu. Et puis elle dit, le Seigneur vient de me montrer, sœur. Vous touchiez une allocation, une sorte de rente d'handicapés. Et vous avez voulu garder cet argent, et vous avez continué à toucher cet argent pendant des mois, alors que vous étiez guéri. Vous avez triché, et c'est pour ça que le mauvais esprit de maladie est revenu. Il dit, comment vous savez ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vient de me montrer. Et il dit, c'est vrai. Elle s'est repentie. Le soir même, elle était à la réunion, debout, guérie devant tout le monde. Vous voyez? Par quelle autorité cette femme faisait ces choses? Dites-moi, le diable, force de persuasion, je sais pas moi comment on va appeler ça, non, Jésus a dit, j'ai fait toutes les choses que j'ai faites, vous ferez les mêmes si seulement vous croyez. L'apôtre Paul a dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Regardez comment était Jésus. Soyez et faites ce que Jésus faisait. Et puis, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous le faites dans la rue, vous le faites partout là où il y a des gens. Allez là où il y a des gens. Et faites-le. Il y a une jeune fille qui fait ça en ce moment avec une petite équipe à Paris. Elle va 5-6 fois par semaine sur les marches de l'opéra, puis elle prêche l'évangile. Après, elle va dans le métro, elle prêche l'évangile, elle prie pour les malades, il y a des guérisons. Et puis un jour, il y a des serviteurs de Dieu sérieux qui vont l'honorer, hein, et qui vont non pas la coincer dans un truc, dans un machin, dans une religion, non, mais qui vont attester que ça vient vraiment de Dieu. Mais avant que cela arrive, la pauvre fille elle aura des tas de problèmes avec des religieux qui vont dire « Mais t'as pas le droit de faire ça !» D'ailleurs, ça commence, hein, elle a déjà des problèmes. Moi, j'encourage, je dis « Continue, ma sœur, c'est bien. Les... » Il me fait penser à moi quand j'étais jeune. « Allez-y, faites ce que Jésus a dit. » Faites ce que Jésus a dit. Puis les choses s'arrangeront petit à petit. Et ce qui compte, c'est que les gens soient sauvés. C'est que les gens soient guéris. Parce que Jésus est venu pour ça. Il n'est pas venu pour qu'on construise des beaux temples. Bien sûr que c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir un. Là, on a, juste en dessous de moi, là, dans mon bureau, je suis dans mon bureau, là. Juste en dessous, on a un merveilleux local qui nous servira de chapelle. C'est voûté, c'est magnifique, avec un fond de véritables pierres de taille. C'est superbe, c'est magnifique. Mais pour le moment, ben, c'est pas une chapelle. C'est là qu'on met le reste de nos cartons de déménagement. Mais c'est parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le message de Jésus qu'on donne aux gens et la puissance de l'Esprit de Dieu qu'on dégage par notre foi pour bénir les gens et glorifier le nom de Jésus-Christ qui nous a connus à l'avance, qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui nous a appelés, qui nous a justifiés et qui nous glorifie. Moi, je suis tout content quand il y a un miracle. Là, ce matin, on a eu une réunion de prière et je mets ça à chaque fois sur Facebook Révélation Bible. Inscrivez-vous d'ailleurs à Facebook Révélation Bible. Et il y a une personne qui m'écrit, ben, elle est malade cette personne, et ça fait pas mal de temps qu'on prie, et là elle me dit, ben, ce matin je me suis réveillé et j'étais guéri. Ben, j'étais content, ça fait plaisir, c'est magnifique de savoir que voilà, ben, Dieu se sert de nous, c'est valorisant, ça fait plaisir, on se glorifie pas de ça. On peut pas se glorifier de ça. Mais on se dit, j'ai quand même participé un peu. Si j'avais pas prêché, prié, pris la peine de faire un compte Facebook pour annoncer l'évangile, bah, ça se serait pas produit. Voilà. Hein, c'est juste ça. C'est une joie d'avoir participé à l'œuvre de Dieu en faisant les choses en son nom, comme il nous a simplement dit de le faire, sans se casser la tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change pas grand-chose à la face du monde. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir. Et vous voyez, j'ai 70 ans, je n'ai plus rien à prouver. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Allez, bye. Au revoir.